Il est 8h. Et à la une, attendez-vous à voir les tarifs grimper. Europe 1 vous le confirme ce matin, des voitures à l'industrie du bâtiment, tous les prix vont augmenter du fait de la flambée des matières premières et des coûts de transport. Symptôme d'une économie mondiale qui redémarre et où chacun veut être servi au plus vite. Dans ce journal, pourra-t-on recevoir sa deuxième dose de vaccin sur son lieu de vacances cet été? La réponse est plutôt non, vous allez comprendre. La rébellion des députés Modem qui ont forcé le gouvernement à refaire voter l'Assemblée en pleine nuit sur le pass sanitaire. Et puis, après 44 ans de disette pour la France à l'Eurovision, la chanson « Voilà » de Barbara Pravi va-t-elle nous faire gagner? Elle est favorite pour le moment. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La situation s'embrase au Proche-Orient, Jérusalem, Tel Aviv, Gaza. Jusqu'où ira l'escalade? Qui peut encore l'arrêter? Et surtout, qui veut vraiment l'arrêter? Toutes les questions ce matin à l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Rendez-vous 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. On ne fera pas ici un cours d'économie sur la loi de l'offre et de la demande. C'est pourtant la raison simple qui explique qu'avec le redémarrage mondial des entreprises, des restaurants, ça va venir, et de notre shopping tout simplement, les prix sont amenés à monter. Et ce n'est même pas un sujet tabou, y compris dans la bouche des grands patrons d'entreprises, tout ce qu'il y a de plus grand public. Ainsi, sur Europe 1, tout juste hier, Jean-Dominique Senard, président de Renault.
Il est évident que nos entreprises ont été obligées de faire ce qu'il faut pour survivre et donc forcément passer une partie de ces hausses de prix vers le public. La réalité, c'est que la tendance inflationniste que nous connaissons là est massive. On l'a rarement vue depuis bien des années.
On peut avoir une idée de la proportion?
Non, je ne saurais. Alors honnêtement, je vais vous le dire, et c'est très sincère parce qu'aucune décision n'est prise aujourd'hui. Mais vous me posez la question, je vous réponds aussi sincèrement que possible.
Jean-Dominique Senard, PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui était l'invité exceptionnel de la France Bouge hier à 13h sur Europe 1.
Bonjour Emmanuel Dutheil. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Renault est-il le seul constructeur à envisager ces hausses de prix?
Alors, chez Peugeot, on reconnaît aussi qu'une hausse des prix est tout à fait envisageable. Volkswagen a également annoncé qu'il allait être obligé d'augmenter ses tarifs. La raison est simple, tout augmente en même temps. Le prix des matières premières, on l'a dit, c'est logique. Tout le monde commande en même temps d'énormes quantités avec la reprise. Les coûts de transport s'envolent aussi, là encore, la raison est simple. Les conteneurs, par exemple, des bateaux sont pris d'assaut. Du coup, chez Michelin, selon nos informations, on a dû faire venir récemment du caoutchouc par avion plutôt que par bateau pour faire tourner les usines. Ça augmente la facture. Mais ces hausses ne touchent pas que l'automobile, bien loin de là. Tous les secteurs qui travaillent avec des matières premières venant de l'étranger sont concernés. C'est vrai dans le bâtiment, par exemple, où l'on n'arrive plus à garantir des prix sur plusieurs mois. Un exemple, le fabricant de véranda Akena va augmenter ses prix de 2% dès le 1er juin.
Emmanuel Dutheil, merci Emmanuel. On parlait de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Autre entreprise franco-étrangère, le groupe Air France KLM, les Pays-Bas, s'opposent à un bonus de 2 millions d'euros attribué à son patron Ben Smith. Pas de primes dans les entreprises qui ont besoin d'être soutenues par des aides d'État. Voilà ce qu'explique le ministre néerlandais des Finances, des entreprises dont les employés perdent leur emploi.
La reprise économique a un horizon permis par le déploiement de la vaccination, bien sûr. Plus de 18 500 000 Français ont reçu une première dose.
Ouverture des réservations de dernière minute à partir d'aujourd'hui pour tous les plus de 18 ans. Il s'agit de rechercher des créneaux restés vacants le lendemain. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Le gouvernement planche aussi sur la vaccination pendant l'été.
Exactement, car plusieurs questions se posent. D'abord, les Français pourront-ils réaliser leur deuxième dose sur leur lieu de vacances? Eh bien, non, ou alors de façon exceptionnelle, a indiqué hier le ministère de la Santé, qui demande aux Français d'adapter leurs vacances à leur rendez-vous de vaccination et non l'inverse, car il y a un risque de désorganisation du système. En clair, pendant l'été, la règle sera toujours de recevoir sa deuxième injection au même endroit que la première. Donc, si vous devez partir en vacances le 15 juillet en ayant reçu vos deux injections de Pfizer ou Moderna, il faudra prendre rendez-vous pour la première le 3 juin au plus tard pour respecter le délai de 42 jours entre les deux doses. Avec AstraZeneca, c'est un peu plus souple car le délai entre les deux doses est de 12 semaines.
On parle quand même d'attribuer un peu plus de doses aux régions touristiques.
Oui, c'est exact, notamment pour les vaccinations avec le vaccin Janssen qui a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule dose. Une expérimentation va d'ailleurs être menée dès ce week-end de l'Ascension en région Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 50 000 rendez-vous supplémentaires seront disponibles dans ces zones touristiques pour injecter ce vaccin unidose destiné aux plus de 55 ans. Et cela pourrait préfigurer ce qui se passera cet été, dit-on au ministère de la Santé. Enfin, pour fluidifier la vaccination chez les plus jeunes, y compris en amont des vacances, le vaccin à ARN messager Moderna sera disponible chez les pharmaciens et les médecins dès la semaine du 24 mai.
Merci Anne Legal, spécialiste santé d'Europe 1.
Juste avant 8h, Nicolas Bétou nous parlait dans son édito de cette science inexacte qu'est la politique. Hier, on a vu les députés Modem se déconnecter temporairement de la majorité.
Oui, comme un air de rébellion, Louis Dragnel, le pass sanitaire était dans la balance et il a fallu une deuxième délibération à 1h du matin pour faire adopter le texte.
Oui, c'est exactement ça. Le gouvernement contraint de négocier avec son allié du Modem une deuxième délibération du texte organisée jusque tard dans la nuit. Des tensions dans l'hémicycle et au final, une concession. Le Modem voulait limiter la période de transition après la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement a dit oui. Cette période pendant laquelle il conserve des pouvoirs exceptionnels se terminera fin septembre au lieu de fin octobre. Suffisant pour faire passer le texte finalement. Alors derrière tout cela, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le Modem a voulu adresser un message à Emmanuel Macron. Ses députés ne sont pas des godillots qui votent les yeux fermés toutes les demandes du gouvernement. Ces derniers jours, ils se sont sentis méprisés par Christophe Castaner, le patron des députés La République En Marche. Ils ont donc profité de cette occasion pour montrer leur exaspération. Pour François Bayrou, tout l'enjeu est de ne pas se faire oublier d'Emmanuel Macron alors qu'on entend beaucoup parler de rapprochements locaux entre Les Républicains et La République En Marche.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1 s'attangue pour la majorité qui voit aussi ce sondage ce matin dans le Figaro en PACA. Après les atermoiements sur les listes, Les Républicains et La République En Marche, Thierry Mariani, candidat du Rassemblement National, gagne 5 à 6 points selon les scénarios par rapport aux dernières enquêtes. De son côté, on vous le disait hier, Jean Castex se met à faire de la politique, comme quand il assume justement ce qui s'est passé avec Renaud Muselier et les régionales en PACA. C'était hier soir sur France 2.
On peut quand même juste rétablir la vérité des faits. Mais c'est Monsieur Muselier lui-même qui nous a tendu la main. Je lui ai répondu en ma qualité de chef de la majorité parlementaire. J'assume complètement, je ne le regrette pas, d'autant que sur cette région plane la menace du Rassemblement national.
Jean Castex, dans cette interview, a encore rappelé ce chiffre. 10 000 postes de policiers et gendarmes auront été créés au cours du quinquennat, mais sur le terrain, ces renforts ne sont pas toujours perceptibles.
Exemple frappant ce matin, c'est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où il faut faire appel à une société privée de sécurité pour protéger les 1500 habitants d'une résidence HLM. Cela fait 4 mois que les agents sont là, face à un climat d'insécurité latent, précisément dans les sous-sols. Reportage Europe 1 de Jean-Jacques Herry.
Dans l'immense parking souterrain, les box, plus de 300 en tout, se succèdent sur deux niveaux. Jusque récemment, les habitants y descendaient la boule au ventre.
J'étais obligé de me lever parfois à 5h du matin pour accompagner ma petite sœur chercher sa voiture.
La peur de faire une mauvaise rencontre dans un lieu décrit comme la cour des miracles.
Il y avait de la prostitution, des drogués.
Traîner ici, fumer ici, vendre ici. Et il y en a qui vendent même de gasoil ici. De gasoil, des bidons de gasoil.
Il y avait des gens qui se faisaient agresser. Ancienne gardienne, il y a 2 ou 3 ans de ça, s'est fait agresser par des toxicomanes.
Régulièrement, les box étaient fracturés, cambriolés, dans l'indifférence générale, regrettent les habitants. Mais c'est vrai, disent-ils, il y a du mieux depuis l'arrivée des agents de sécurité il y a 4 mois.
Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Que ce soit privé ou public, peu importe, à partir du moment où le travail est fait.
Mais cette solution ne peut pas être pérenne, explique la maire de la ville, Karine Franklet. C'est trop cher pour l'OPH, le bailleur social.
30 000 euros par mois, qu'on ne peut pas supporter un tel coût. Et ce n'est pas normal, encore une fois, qu'on soit obligé d'avoir recours à des sociétés privées pour rétablir un ordre public. On a vraiment besoin d'avoir plus de moyens au niveau de l'État.
En parallèle, des travaux ont lieu pour sécuriser les portes d'accès au parking et rendre beaucoup plus difficiles les intrusions.
Jean-Jacques Herry à Aubervilliers.
8h09 sur Europe 1. Israël et le Hamas se dirigent vers une guerre à grande échelle. Cette phrase, cette alerte même, émane directement de l'émissaire des Nations Unies pour le Proche-Orient.
Et nous retrouvons notre correspondante en ligne de Jérusalem pour Europe 1, Gwendoline Debono. Gwendoline, nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité aujourd'hui. Une guerre à grande échelle, hein, je répète le terme. C'est ce qui est en train de se mettre en place sur le terrain.
En tout cas, la confrontation se durcit clairement entre les deux parties. Hier, le Hamas a lancé un barrage de roquettes sur Tel Aviv. Le ciel s'est alors constellé de points jaunes lumineux, les roquettes et les missiles du système de défense israélien. Les sirènes d'alerte n'ont pas cessé de retentir. Le Hamas a déclaré qu'il s'agissait d'une réponse à la destruction d'un immeuble de plusieurs étages par Israël. Le message du Hamas aux Israéliens est clair. Quand vous passez la vitesse supérieure, nous aussi. Israël a donc riposté avec une vaste série de raids. Des bâtiments ont été détruits, parmi lesquels des commissariats de police, des bureaux du Hamas. Et ce n'est que le début, disent les Israéliens qui affirment avoir encore beaucoup de cibles dans le viseur.
En direct de Jérusalem pour Europe 1, merci Gwendoline Debono.
Les États-Unis se font plutôt discrets depuis le début de cette nouvelle crise. Donald Trump reproche d'ailleurs publiquement à Joe Biden de ne pas soutenir Israël comme lui le faisait. L'administration Biden s'affiche plus équilibrée entre les deux parties, à l'image de cette déclaration du porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.
Nous ne voulons pas voir de provocations. Les provocations que nous avons vues ont amené au décès regrettable, très regrettable, d'Israéliens comme de Palestiniens. Israël a le droit de se défendre, mais en même temps, nous regrettons les informations sur des décès de civils et nous voulons que ça cesse.
Et je vous rappelle que l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, au micro de Sonia Mabrouk, dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1.
Une première condamnation pour Nordal Lelandais. 20 ans de prison pour avoir tué le caporal Arthur Noyer. Justice a été rendue, se satisfait l'avocat du meurtrier, qui annonce qu'il ne fera pas appel. Sentiment de soulagement aussi chez le père de la victime.
Ça ne nous ramènera pas, Arthur, qu'il y ait 30 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe, ça ne nous ramènera pas, Arthur. Nous, on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été victime. C'est fait.
Didier Noyer, au micro Europe 1 de Marion Dubreuil. Un autre rendez-vous judiciaire attend Nordal Lelandais en 2022, le procès du meurtre de la petite Maëlys enlevée lors d'une fête de mariage en août 2017 en Isère.
44 ans. 44 ans que la France n'a pas gagné à l'Eurovision. Mais chaque année, eh bien, on a envie d'y croire. Et cette fois, on a peut-être raison pour l'édition 2021.
Écoutez, Barbara Pravi, qui va nous représenter dans 10 jours, est actuellement numéro 1 dans les prévisions des bookmakers. Angèle Châtelier.
À 28 ans, Barbara Pravi est pour l'instant la grande favorite de la 65e édition de l'Eurovision. Avec sa chanson « Voilà », elle aurait 18% de chances de gagner, selon les bookmakers.
Ne partez pas! Je vous en supplie, restez longtemps.
Pour Fabien Randan, spécialiste de l'Eurovision, c'est son côté Edith Piaf, son allure de parisienne ou encore sa sincérité qui font la différence.
Elle dégage quelque chose de très frais, de très spontané, authentique. Elle est autrice, compositrice, interprète, donc elle défend sa chanson. Sa prestation dans la sélection française était une très jolie prestation avec des jeux de lumière. Ça soulignait l'émotion de la chanson et ça c'était plutôt un bon point, notamment auprès d'un public qui n'est pas forcément francophone, qui à travers cette émotion là, peut comprendre de quoi il retourne.
Pour autant, il appelle à la prudence. Pour l'heure, dans les classements, Barbara Pravi arrive devant Destiny, qui concourt sous les couleurs de Malte, mais avec seulement un point d'avance dans les sondages. Voilà,
voilà, voilà. Oh, il nous reste à attendre jusqu'au 22 mai, Mathieu. Voilà, voilà.
10 jours, et on l'a déjà dans la tête. Et Barbara Pravi, on va la recevoir la semaine prochaine. Peut-être lui souhaiter bonne chance. Non, pas bonne chance, ça porte malheur. Mais bon, on est à fond avec la France, le 44 ans, vous vous rendez compte, et cette fois, on a une chance d'y croire. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 tout de suite. Sonia Mabrouk et son invité, Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada.
Bienvenue à vous et bonjour Daniel Saada.
Bonjour.
Un déluge de feu, des centaines de roquettes du Hamas, de multiples frappes aériennes de Tsahal, c'est un déchaînement de violence. Est-ce que vous dites ce matin qu'un point de non-retour a été franchi?
Je crois que cette nuit peut être l'un des crimes de guerre les plus abjects, les plus terribles du 21e siècle a eu lieu, puisqu'on a essayé d'assassiner de sang-froid des centaines, peut-être des milliers d'Israéliens civils en Israël cette nuit.
Un crime de guerre, monsieur l'ambassadeur, mais il n'y a pas eu ces milliers de victimes dont vous parlez.
Vous savez, des centaines de roquettes, ce qu'on appelle des roquettes, ce sont des missiles, c'est entre 40 et 60 kilos d'explosifs chacun, ont été tirés sur des zones civiles avec une densité la plus forte. 4 millions d'Israéliens se trouvaient sous le feu de ces missiles. S'il n'y avait pas eu le système de défense antimissile, il y aurait ce matin plusieurs milliers de morts en Israël.
Tout comme il faut s'indigner des victimes civiles israéliennes touchées mortellement par les roquettes du Hamas, est-ce que vous vous indignez ce matin avec autant de force et d'émotion des victimes civiles palestiniennes ?
Je m'indigne essentiellement lorsqu'on cible délibérément des civils, ce qui n'est pas le cas des frappes israéliennes. Nous sommes en train de mener une guerre de défense. Et c'est cette défense, la légitimité du droit à nous défendre, qui est en cause aujourd'hui.
Vous visez des dignitaires du Hamas, mais vous considérez que les habitants de Gaza sont des victimes collatérales, des complices du Hamas ?
Nous considérons que le Hamas est responsable lorsqu'il pratique la politique des boucliers humains, lorsqu'ils prennent délibérément leurs civils pour servir de boucliers humains, c'est eux qui portent la responsabilité.
Mais
de ces pertes.
Ce sont aussi vos bombes, monsieur l'ambassadeur, qui tombent parfois sur des enfants palestiniens.
Que voulez-vous que nous fassions ?
Vous
que
êtes voulez-vous,
vous attendez à quoi ? Est-ce que nous restions les bras croisés ? Que nous laissions des centaines de missiles tomber sur nos villes ? Que nous vivions dans la terreur ? Nous sommes obligés de nous défendre et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rendre ces frappes les plus chirurgicales possibles.
Mais vous êtes un État, est-ce que vous n'avez pas les moyens, et comme vous l'a demandé la France d'ailleurs, d'avoir un usage proportionné de la force et de la violence ?
Alors j'aimerais bien qu'on me donne le mode d'emploi. C'est quoi l'usage proportionné ? Lorsqu'on tire 850 missiles sur des zones civiles, nous devons envoyer 850 bombes. Lorsqu'on essaie de tuer des milliers d'Israéliens, je dois essayer de tuer des milliers de Palestiniens. Il n'y a pas de proportion dans ce conflit.
Mais c'est un conflit asymétrique.
Il n'y a pas de proportion dans ce conflit.
C'est asymétrique.
Absolument pas. Il n'y a absolument pas de symétrie dans ce conflit. Nous sommes un État. C'est une organisation terroriste. Nous sommes un pays qui aimons la vie, ce sont des djihadistes. Nous sommes un État de droit, c'est une dictature théocratique.
Est-ce que c'est aussi binaire, monsieur l'ambassadeur, à Gaza ? Il y a des habitants, il y a des civils, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Vous ne pouvez pas les mettre tous dans le même sac que le Hamas, cette
organisation. Évidemment que nous ne mettons pas dans le même sac. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents lorsqu'on essaye d'assassiner, comme on l'a fait cette nuit, des milliers de nos citoyens.
Mais jusqu'où irez-vous ? Est-ce qu'une opération, comme on le dit, terrestre, est-ce que vous le confirmez dans la bande de Gaza, une opération de l'armée israélienne est en préparation avec toutes les conséquences que cela peut comporter ?
Vous savez, cela fait malheureusement plusieurs fois que nous sommes confrontés à la violence en provenance de Gaza. Nous allons célébrer en octobre le 20e anniversaire de ces tirs de roquettes sur Israël. Nous sommes malheureusement confrontés depuis 20 ans à cette situation. Je crois, pour répondre à votre question, que depuis 20 ans, nous avons prouvé que nous mettons en œuvre tout ce qui est possible pour essayer à la fois d'assurer notre sécurité et en essayant de faire en sorte que le moins de victimes possibles soient commises du côté de Palestine. À Gaza.
Daniel Saada, parlons aussi des origines de cette flambée de violence. Il y a quelques semaines, la dispersion d'un rassemblement de Palestiniens qui manifestait contre des expulsions de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah a dégénéré. Pourquoi avoir utilisé la force à ce moment-là qui a conduit en partie à ces tensions ?
Deux choses. La première, c'est que pendant près de 3 semaines, il y a eu en effet plusieurs explosions de violence à Jérusalem. Il n'y a pas eu un seul mort. Parce que nous avons fait preuve de retenue, parce que nous avons fait preuve de modération. Ce n'est pas là la cause de la flambée de violence dont nous parlons aujourd'hui. Le Hamas s'est vu interdire de participer aux élections puisque l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a décidé d'annuler ces élections. Donc le Hamas a été privé de sa victoire dans les urnes. Il essaye aujourd'hui de gagner dans la rue et par la force.
Mais est-ce que vous n'avez pas aidé à cet empêchement des élections ? Il est dit qu'Israël n'a pas permis le déroulement du scrutin à Jérusalem.
C'est un prétexte. La décision de l'annulation de ces élections relève de l'autorité palestinienne qui avait peur, qui a craint, sans doute à juste titre, que le Hamas non seulement remporte les élections dans la bande de Gaza, comme ça a été le cas il y a 15 ans, mais également en Cisjordanie.
Est-ce que vous reconnaissez malgré tout que parmi les causes de cette escalade de violence, il y a ces menaces d'expulsion de familles palestiniennes du quartier arabe de Sheikh Jarrah au profit de colons israéliens ? Est-ce que c'est là aussi une origine du conflit et qu'il faut aujourd'hui en parler ?
Vous savez, le conflit a provoqué un certain nombre de problèmes, notamment ce que vous évoquez, mais il y a également d'autres images à Jérusalem. Venez à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous verrez la coexistence, la cohabitation, vous verrez ce qui se passe entre Palestiniens, Israéliens, entre Juifs et Arabes chaque jour. Donc pourquoi toujours se rattacher à ces images ? Pourquoi toujours chercher des prétextes ? Ceux qui veulent la cohabitation, ceux qui veulent vivre ensemble, et ils sont nombreux du côté palestinien, savent qu'Israël leur tend la main et que c'est possible.
J'en parle parce que c'est essentiel ce dont nous évoquons. Est-ce que clairement Israël...
C'est
Israël dit à ses Israéliens, vous ne pouvez pas vous approprier ces terrains, même si certains de ces colons affirment que leurs ancêtres, monsieur l'ambassadeur, y habitaient dès 1940.
C'est accessoire. Mais c'est un détail accessoire. Vous pensez sincèrement que 8 habitations à Sharjah justifient la mort de milliers d'Israéliens? Vous le pensez
personne
sincèrement?
Ne le dit. Personne ne le dit.
Mais est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'on a tiré 850 missiles sur 4 millions de civils avec un débat juridique
monsieur
sur 8 habitations dans une rue de Jérusalem?
Est-ce qu'on peut parler des différentes situations sans qu'à chaque fois vous nous rameniez à cette situation? Est-ce que je vous dis, est-ce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre des deux côtés?
Il faut impérativement résoudre le problème, vous avez entièrement raison. Mais je répète que cette nuit, il s'est passé quelque chose de très grave. Il y a eu 850 missiles tirés sur Tel Aviv et sur Israël. On a essayé de tuer des milliers d'Israéliens. J'attends de tous ceux qui, depuis des années, nous ressassent inlassablement cette formule du droit inaliénable d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues, eh bien qu'ils passent à l'acte. Aujourd'hui, c'est une question qu'il faut trancher.
Mais qui vous écoutez encore? Parce que la communauté internationale, il faut le dire un peu prudente, voire impuissante, vous dit à vous, Israël, État, à vous de retenir vos coups, vos frappes. Est-ce que vous l'entendez?
Nous entendons surtout le silence assourdissant de ces 20 dernières années, pendant lesquelles des milliers, des millions d'Israéliens vivent sous la menace de ces missiles. Vous savez, dans le sud d'Israël, le premier mot que les bébés savent dire, ce n'est pas papa ou maman, c'est abri. C'est une situation épouvantable.
Ne croyez-vous pas, monsieur l'ambassadeur, parce que vous êtes dans l'émotion que les enfants palestiniens peuvent aussi dire la même chose et subissent le même effroi.
Mais je le comprends parfaitement. Je le vis avec effroi également. Vous croyez que nous envoyons nos bombes sur Gaza avec la même joie
donc
avec
vous
laquelle...
Vous reconnaissez que c'est sur des civils également qu'il y a ces victimes collatérales.
Mais nous visons des cibles militaires du Hamas qui sont installées. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, l'ONU l'a reconnu, y compris d'ailleurs des installations de l'ONU, des écoles de l'ONU, des écoles de l'UNRWA sont utilisées. Utilisé par le Hamas. Que voulez-vous que nous fassions? Que nous baissions les bras?
Je
que nous tendions la seconde joue?
Depuis tout à l'heure, vous ne me parlez que du Hamas. Mais pourtant, il y a une autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, malheureusement, n'est plus audible, n'est plus crédible. Benjamin Netanyahou est de plus en plus dur et n'a pas son gouvernement. Est-ce que c'est ce vide politique qui fait que le Hamas est bien prospère?
Vous savez, ça fait 20 ans que le Hamas lance des roquettes sur Israël, des missiles sur Israël. Depuis 20 ans, je peux vous égrener un nombre impressionnant de premiers ministres qui se sont succédés chez nous. Le problème n'est pas monsieur Netanyahou. Le problème n'est pas le gouvernement israélien. Le problème est que le Hamas est l'allié de l'Iran, c'est le bras armé de l'Iran. L'Iran annonce vouloir détruire Israël. Il a essayé de le faire cette nuit.
Ces centaines de roquettes, c'est le bras de l'Iran pour vous?
Évidemment. Aucun doute là-dessus. Et j'appelle tous les pays qui aujourd'hui essayent de négocier avec l'Iran de bien comprendre lorsqu'on parle des tentatives de déstabilisation régionale de l'Iran. Eh bien, cette nuit, nous en avons vu la preuve.
Mais vous voyez,
preuve.
Monsieur l'ambassadeur, Israël avait tenté de normaliser ses relations avec certains pays arabes. Mais à l'aune de ce qui se passe, est-ce que vous n'êtes pas en train, vous-même, puisque vous faites partie de ce conflit, justement, d'accélérer ce risque de conflit régional?
Au contraire, nous essayons, au contraire, avec ces succès de la normalisation avec plusieurs pays arabes, nous avons montré, justement, qu'il y avait la possibilité d'une entente régionale. Et c'est ce que l'Iran essaye aujourd'hui de détruire.
Mais comment on peut parler d'une entente régionale alors que je vous ramène il y a quelques semaines sur cette esplanade des Saintes Mosquées, lieu tellement symbolique, tellement sensible, il y a eu des milliers de Palestiniens qui ont affronté la police israélienne? Vous ne pensez pas que cela, vous l'avez un peu sous-estimé d'une manière symbolique?
Vous savez, ça fait maintenant bientôt 50 ans que l'esplanade des mosquées se trouve du côté israélien. Il y a eu, ci et là, des incidents, mais fondamentalement, le droit, la liberté de culte est exercé en Israël, est exercé sur l'esplanade des mosquées.
Et puisque vous dites le droit, est-ce qu'il ne faudrait pas respecter le droit international? Je vous ramène encore une fois à Jérusalem-Est, comme ça des deux côtés, il peut y avoir un jour une solution, peut-être
oui,
un début
de solution. La solution viendra de la négociation entre nous pour essayer de trouver la solution.
Vous y croyez vraiment?
J'y crois, fondamentalement. Je pense sincèrement que nous y avons été très proches il y a quelques années. Et il suffit de bonne volonté des deux côtés pour que nous y arrivions.
Je voudrais qu'on évoque, monsieur l'ambassadeur, une scène qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant une foule israélienne festive devant le mur des Lamentations, alors que l'on voit au loin un début d'incendie, semble-t-il, prendre à la mosquée d'Al-Aqsa. Que célébrer cette foule? Que disent ces images qui ont été détournées peut-être?
Si ce n'était pas grave, je dirais que c'est une farce, une tartufferie. Mais comme il s'agit de quelque chose de très grave, parce que comme vous l'avez si bien évoqué, il y a sur cette esplanade, il y a dans cette ville trois fois sainte, un potentiel extrêmement dangereux de haine et de destruction. Alors je dirais que c'est une fumisterie, une véritable fumisterie. Il n'y a strictement rien à voir entre les scènes de liesse qui se trouvent devant le mur des lamentations, qui célèbrent la réunification de Jérusalem. Vous savez, ce que nous célébrons, et la raison pour laquelle nous dansons est toute simple, c'est que pendant les 20 ans de l'annexion jordanienne de Jérusalem, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller au mur occidental. Il fallait, je ne sais pas si vous le savez, il fallait fournir un certificat de baptême pour pouvoir approcher du mur des lamentations. C'est cela que nous fêtons. Et cela n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé sur l'esplanade, ce qui est un arbre qui était en train de brûler. Et je suis absolument désolé de voir que certains en font un usage épouvantable. Ce sont les prochains Kolibani ou les prochains Traoré ou les prochain Mera que nous sommes en train d'armer.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes en train de dire que tout cela va avoir une conséquence pour nourrir le djihadisme, notamment sur le sol européen ?
Oui, lorsqu'on s'évertue, au sens étymologique du terme, lorsqu'on perd sa vertu, aussi tenté soit-il qu'ils en aient une, quand j'entends certains élus de la République utiliser ces images pour condamner Israël...
Quels élus de la République allaient plus loin ? Françaises ?
Oui, j'ai entendu hier soir des élus de la République utiliser cette image avec des arguments absolument facétieux. C'est une honte.
Est-ce qu'il y a un risque d'exportation du conflit en France ?
Mais il est là, le conflit. Vous savez, lorsque Kolibani a tué les consommateurs de l'hypercachère, il a dit « je venge les enfants palestiniens ». C'est ce que Mera a fait lorsqu'il a tiré de sang-froid sur des enfants à l'école juive de Ozar HaTorah. Il est là, le conflit. C'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de fermeté.
Oui, mais monsieur l'ambassadeur, on vous demande, est-ce que vous voulez vraiment aussi la paix ? Quel est votre objectif ? Parce que, et je vais employer un mot peut-être dur, vous êtes condamnés à vivre ensemble.
Absolument pas.
Israéliens et Palestiniens,
absolument
non ?
Absolument pas.
Qui n'a pas le droit de vivre sur cette terre ?
Nous sommes destinés
à vivre
ensemble.
Ça, c'est un mot. Mais la réalité ?
La réalité, c'est celle que je vous évoquais tout à l'heure. Venez en Israël, venez à Haïfa, venez dans les hôpitaux du nord d'Israël, venez à l'hôpital Hadassah.
Allons à Gaza aussi, dans la bande de Gaza.
Venez voir la réalité. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous savez, cela fait maintenant 73 ans. Nous fêtons après-demain, le 14 mai, ça sera le 73e anniversaire de la déclaration d'indépendance d'Israël. Il y a 2 millions de Palestiniens, d'Arabes israéliens qui vivent chez nous. C'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. La cohabitation est une réalité
ensemble.
Au quotidien.
Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu ce matin sur Europe 1 toutes nos questions. Bonne journée à vous. Évidemment, on va continuer à suivre cette actualité.
Merci, Sonia Mabrouk. Vous restez sur Europe 1. L'info, Marion Calais, dans quelques secondes.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h32, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Le verdict est tombé un peu après 23h30. Après 7 heures de délibérés, les juges et les jurés de la cour d'assises de Chambéry ont condamné Nordal Lelandais à 20 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Nordal Lelandais est donc reconnu coupable du meurtre d'Arthur Noyer il y a 4 ans. Son avocat a fait savoir dès hier soir qu'il ne ferait pas appel. À Avignon, après l'hommage national, les obsèques aujourd'hui dans l'intimité d'Éric Masson. Le tueur présumé du policier a été mis en examen hier et incarcéré. Une suite de défaillances dans le suivi de l'homme qui a tué sa femme en la brûlant vive la semaine dernière à Mérignac. Première conclusion de la mission d'inspection diligentée par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. L'homme avait été condamné pour violence conjugale quelques mois auparavant. 5 morts en Israël, une trentaine dans la bande de Gaza. Nouvelle nuit de violence au Proche-Orient. Raids aériens israéliens contre tirs de roquettes, notamment sur Tel Aviv. Il y a quelques minutes sur Europe 1, l'ambassadeur d'Israël en France assurait que 850 missiles avaient été tirés ces dernières heures sur son pays. On a essayé d'assassiner, a-t-il dit de sang-froid, des centaines, peut-être des milliers de civils. Un conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui. Nouvelle accélération dans la campagne de vaccination. Dès aujourd'hui, officiellement, tous les adultes à partir de 18 ans peuvent prendre rendez-vous en fonction des créneaux disponibles pour le lendemain. Et puis 21h ce soir, première demi-finale de la Coupe de France, le PSG face à Montpellier.
Merci beaucoup Marion Calais, pardon. 8h34, si j'éteins mon micro en parlant, ça risque de ne pas marcher. Laurent Cabrol est avec nous pour le temps.
Oui, bien un temps qui ressemble un petit peu à ce que nous vivons en ce moment, chers amis, puisque le changement n'interviendra pas avant pas mal de jours encore. Hein. J'ose pas vous donner la date, puisque nous n'avons pas complètement. Alors, en ce qui concerne les températures aujourd'hui, entre 16 et 20 degrés, pour ce qui est de la pluie, elle arrive par l'Atlantique et elle va traverser la France durant la journée. Et ce soir, nous la retrouverons sur les régions de l'Est. C'est un peu le même principe que les perturbations classique. Pour demain, jeudi donc 13 mai, jour de l'Ascension, il pleuvra sur la Normandie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la région parisienne, le Centre et la Bourgogne, alors que dans les autres régions, ce sera un régime d'averse. Ce sont deux pluies quand même, mais enfin, totalement différentes et surtout très espacées. Vendredi, des averses pratiquement partout en France. Là, on n'échappera pas aux averses et toujours à des températures de 16 à 18 degrés. Puis samedi, dimanche, ce sera un petit peu la même chose. Hein. Malheureusement, j'ai beau chercher, si même samedi, il y aura quand même pas mal de pluie dans l'Est et dans le Nord. Et dimanche, pas mal d'averses en général. Bon, bref, je prononce toujours les mêmes mots, j'en ai marre. Et c'est des températures de 16 à 19 degrés. Et vous devez pester chez vous, chers amis. C'est comme ça. Allez.
Vous prononcez toujours les mêmes mots. Mais Laurent Cabrol, vous faites la météo depuis combien d'années? Évidemment, vous allez dire température tous les jours.
J'ai 20 mots à prononcer chaque jour dans des sens différents.
Mais passez à la bourse, en fait. Merci Laurent Cabrol. C'était la météo sur Europe 1. Asseyez-vous. Le docteur va vous recevoir. Jimmy Mohamed arrive. Bonjour Jimmy. Notre santé dans un instant. On va retrouver Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
8h37 sur Europe 1.
Notre santé, présentée par Atoll. Si vous êtes né avant 1981, prenez rendez-vous et allez faire tester gratuitement votre vue chez votre opticien Atoll.
Notre santé, c'est avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À l'approche de la réouverture des terrasses, nous allons probablement profiter d'une bonne tablée, mais aussi des bienfaits des rayons du soleil.
Et oui, je vous avais dit qu'avec le confinement, le couvre-feu, nos organismes ont souffert du manque de lumière naturelle et de la surexposition aux écrans. Mais tout ça, c'est bientôt derrière nous, car nous sommes à une semaine de la réouverture des terrasses. Et donc, nous allons probablement passer plus de temps en plein air avec tous les bénéfices des rayons du soleil sur notre santé. Alors tout d'abord, en s'exposant à la vraie lumière, en prenant par exemple un petit déjeuner en terrasse, vous allez resynchroniser votre horloge biologique, celle qui vous aide à mieux dormir le soir et donc à limiter les troubles du sommeil. Et puis, rappelez-vous que la quasi-totalité des adultes manque de vitamine D. Or, cette vitamine peut être synthétisée grâce justement aux rayons du soleil, sans parler du capital bien-être que nous apporte le plaisir de partager un repas entre amis.
Oui, il faut le souligner aussi, ça joue. En revanche, il faudra peut-être prendre quelques précautions vis-à-vis du soleil malgré tout.
Eh oui, car la lumière est composée, entre autres, de rayons invisibles qu'on appelle les ultraviolets ou encore les UV. Alors, vous avez les UVA, B et C. Les UVC vont être absorbés par la couche d'ozone, alors que les UVA et B vont être absorbés en partie par nos yeux et certaines structures très fragiles de l'œil, comme le cristallin, la cornée ou la rétine. En clair, les rayons du soleil vont accélérer le vieillissement de nos yeux. Et je ne vous donnerai qu'un seul chiffre, 20% des cataractes sont accélérés justement par l'exposition solaire.
Mais ça veut dire qu'il faut porter des lunettes de soleil, même par temps nuageux ?
Et oui, que la lumière soit vive ou que le temps soit nuageux, il est important de protéger vos yeux des UV car 90% des rayons ultraviolets traversent les nuages. Ce qui veut donc dire que les lunettes de soleil ne sont pas uniquement réservées qu'aux journées ensoleillées. Et pour ce qui est du choix des lunettes, je vous rappelle que la protection aux UV n'est pas liée à la teinte de vos verres mais aux matériaux qui les composent. En clair, ce n'est pas parce que vos lunettes sont très teintées et donc foncées qu'elles vous protégeront correctement. La teinte vous protège seulement de la luminosité mais elle ne filtre pas les UV. Autrement dit, tous les verres ne se valent pas. Choisissez donc des verres avec un marquage CE suivi d'un indice de protection. Enfin, n'oubliez pas que ces recommandations sont valables pour les adultes, mais aussi pour les enfants.
Oui, bien sûr. Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. À 15h tout à l'heure, on va vous retrouver avec Mélanie Gomez, Jimmy Mohamed, au programme de son rendez-vous.
Nous recevons Sonia Krief, elle est auxiliaire de puériculture et elle viendra nous donner ses meilleurs conseils pour mieux communiquer avec son nouveau-né. Beaucoup de bienveillance à venir.
15h, 16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Merci Jimmy. Notre planète, comme tous les matins à 8h40 avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Fanny, vous
Mathieu.
M'entendez ?
Bonjour à tous.
Ce matin, Fanny, vous nous parlez d'une BD originale, une bande dessinée pour renouer le dialogue entre agriculteurs et écologistes.
Une BD, oui, qui a la vertu de mettre en avant leurs arguments respectifs. L'objectif est vraiment d'atténuer le mépris entre agriculteurs conventionnels et écologistes militants. « Celle qui nous colle aux bottes », c'est le titre de cette BD, est une œuvre politique et autobiographique puisque l'auteur, Martine de Franqueville, colle au basque de son père, lui-même agriculteur. Après avoir développé ses convictions loin de la ferme, elle constate les paradoxes du métier d'agriculteur conventionnel et décide donc de revenir vers son papa pour mener un dialogue constructif entre deux visions que tout semble opposer. L'occasion d'analyser l'histoire de l'agriculture traditionnelle et moderne, de comprendre aussi les obstacles à l'adaptation des agriculteurs aux enjeux écologiques, tout ça bien sûr, dans un mélange d'humour et d'empathie pour détendre l'atmosphère.
Et tant qu'à faire, d'une pierre deux coups, puisque cette bande dessinée permet aussi de parler de l'urgence écologique.
Alors, c'est effectivement un récapitulatif de l'urgence écologique. La culture et l'élevage intensif sont les premiers postes de pollution de l'eau, de l'air et de la perte de la biodiversité. Celle qui nous colle aux bottes évoque cette dure réalité, celle de notre production alimentaire à outrance qui va nous revenir dans les dents. Mais d'un autre côté, la BD rappelle aussi le quotidien des agriculteurs, soumis à une forte concurrence par les prix. France Agrimaire, qui surveille la production agricole en France, rapporte que ces dernières décennies, la profession s'est vue comprimé par le secteur de la grande distribution qui augmente sa marge de profit en maintenant des prix bas. Avec des revenus décroissants, une dette colossale pour payer ses machines et la perspective d'un sol qui s'appauvrit, les agriculteurs conventionnels n'y arrivent plus.
Voilà une synthèse inédite, hein, des arguments écologistes d'un côté et paysans. Une BD en fait qui cherche à pointer du doigt l'aspect politique de cette urgence écologique.
Et ce n'est pas la seule à le faire. Des BD avec un contenu écologiste, il y en a déjà eu. Mais le format semble séduire de plus en plus pour démocratiser un sujet complexe et dénouer les tensions qui l'entourent. En mars dernier, par exemple, Nicolas Hulot a lui aussi publié une BD titrée « Les petits pas ne suffisent pas ». L'œuvre retrace quelques grands thèmes du changement climatique, bien sûr, et elle ne manque pas aussi de passer par l'épisode d'Hulot à son poste de ministre qui s'est conclu par un claquement de porte lorsque l'écologiste a dénoncé l'inertie du gouvernement.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Il est presque 8h43, dans quelques secondes on les retrouve. Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite, c'est à vous, Mathieu Béliard, pour le rappel des infos du jour.
Oui, bonjour Julie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde, fightez. Et oui, je suis chaud, on en parlait à la rédaction avec les copains. Je suis prêt à rentrer dans une cage de MMA. Je suis le Conor McGregor de l'interview. À 7h40, vous l'avez peut-être entendu, j'ai chauffé le général de Richoups. Ah oui. Bon, il a 73 ans, il n'était pas en studio, mais c'était courageux quand même. Vous l'avez remarqué. L'interview du jour, c'est Jean Castex qui hier a affiché son intransigeance sur la sécurité, les questions de sécurité. Alors oui, on sait, avoir Castex pour faire peur aux délinquants, c'est comme avoir une pancarte « Attention, chien méchant », alors qu'on a juste un caniche nain. Mais c'est quand même mieux que rien, positivement. Allez, l'autre info, Julie, c'est que dès ce matin, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner. Et oui, ces prochains mois, on va tous leur donner un vaccin. Il va être encore plus facile à voir que le bac, c'est vous dire. Et puis, Jean Castex qui a annoncé le déroulement des prochaines phases d'ouverture des terrasses, qui ne pourront ouvrir, vous le savez, qu'à 50% de leur jauge.
Oui. Enfin,
50%. Ça va se bousculer pour avoir une place, du coup. Après, vite ma dose pour la vaccination, j'espère qu'on aura l'application rapidement. Vite ma cuite pour être prévenu des endroits où se bourrer la gueule. Où se bourrer, bien sûr, avec modération.
Bien
on est responsable sûr. Sur Europe 1.
Bah oui. Allez, merci Mathieu, à demain.
Merci.
Des tensions et des violences ont éclaté à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, voilà, c'est tout ce qui manquait à l'année 2021. Une pandémie, une crise économique, un effondrement de la biodiversité, de l'insécurité, du réchauffement climatique. Ça manquait de guerre, franchement. Hein, ça manquait de conflits israélo-palestiniens. Eh bien, ça y est, on l'a.
Ne soyez pas trop léger quand même. Hein. C'est un drame ce qui se passe en Israël.
Non mais bien sûr. Et en même temps, ça veut dire que le vaccin est efficace. Hein. Après la pandémie, vous voyez, on revient à une vie normale.
C'est-à-dire.
Ah là là, s'ils avaient acheté du AstraZeneca, si ça se trouve, ils auraient eu tous des thromboses et la paix régnerait toujours à Jérusalem.
Oh, s'il vous plaît, alors.
Comme quoi j'entends « rendez-nous la vie d'avant, c'était génial », ben ça prouve que pas vraiment.
Est-ce que vous comptez faire quelque chose, vous, pour améliorer la situation?
Vous ne riez pas trop sur mes...
Non, pas mal, bof, oui.
Je ne sais pas pourquoi.
Limite, ouais.
Peut-être est-ce l'écriture.
Alors, bon, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, hein, pour améliorer la situation?
Écoutez, maintenant qu'en tant qu'infectiologue, j'ai fini de résoudre la crise du Covid, c'est vrai que ce serait un nouveau défi pour moi. Je suis en train de me former pour être palestinologue. Il n'y avait qu'une vanne à faire et il ne fallait pas que je la loupe. palestinologue. Voilà.
Voilà.
Je suis en train de me former donc pour être palestinologue.
Vous voyez qu'on rit.
Et israélologue en même temps. Ah, c'est pas si dur finalement. Il faut juste faire l'inverse de pendant la pandémie. C'est-à-dire se serrer les mains et se rassembler. Pas de distanciel, mais oui. Enfin, quand même, tous les peuples du monde voulaient se rassembler, se serrer dans les bras, et maintenant qu'ils peuvent, ils ne voudraient plus. Allons, un peu de bonne volonté et de cohérence.
Faire l'inverse des gestes barrières. Bon, c'est pas mal. Merci, Monsieur le Président.
Je vous en prie.
Il nous a expliqué en détail les modalités du déconfinement. Jean Castex est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on sort de la crise sanitaire, hein, selon vous.
Ah, aïe. Aïe, je le dis aux papis et aux mamies non décédés, bien sûr, je m'adresse à celles qui sont encore là. Vous avez bien fait de ne pas décéder, car on est en train de sortir de cette crise. On voit le bout du tunnel, on en sort de ce tunnel.
Oh, pas si vite, hein. Le conseil scientifique a parlé d'une quatrième vague possible cet été.
Vivi. Ah oui, non, mais attends. Non, mais ça, c'est autre chose. J'ai dit qu'on sortait du tunnel. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas un autre tunnel.
Oh, bon, d'accord.
200 kilomètres plus loin, voire même 200 mètres plus loin. Ah, ben...
Alors, on revient sur...
On rentre, on sort.
Bon. On revient sur votre calendrier.
Voyez, prenez l'exemple, monsieur Béliard, qui rentre dans son garage, il prend l'air, mais il revient dans son garage. Voyez, c'est le jour sans fin.
Monsieur Castex, on revient sur votre calendrier du déconfinement. Alors.
Oui, alors, vous l'avez vu dans Le Parisien.
Oui, bah oui, oui.
Quand je dis dans Le Parisien, c'est le journal. Le Parisien, mon joli calendrier. Vous l'avez vu, mon calendrier ?
On l'a vu, oui.
Vous pouvez même le découper. Maman l'a découpé avec un ciseau. Il est magnifique, ce calendrier. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Vivi. Non. Il y a tout. On a pensé à tout. Il y a la réouverture des bowling, des escapes. Des bowling, et les escape games, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous annoncer que ça roule.
Ah,
oui, c'est un jeu moderne.
Oui,
c'est une espèce de labyrinthe, m'a-t-on dit. J'ai des conseillers spéciaux qui m'ont expliqué, mais je n'ai pas compris. Les hammams, il y a les hammams qui rouvrent, les hammams, les zonas rouvrent.
Non, les saunas.
Oui, mais on peut attraper un zona dans un sauna aussi. On a même pensé au chant lyrique en Inde. Individuel, et ça ça ne concerne que 12 personnes en France, le chant lyrique en individuel est réouvert, ça va réouvrir, on est au top.
Alors, revenons à la mesure qui nous intéresse tous, réouverture des terrasses, mais à 50% d'occupation.
Oui. C'est formidable. C'est une véritable avancée, il faut le dire à nos concitoyens français, tous en terrasse, mais à moitié.
Alors, on a tous tenté une fois de déjeuner en terrasse et galéré pour trouver une place, on a attendu des heures. Mais là, avec une capacité à 50%, ça va être compliqué.
Oui, c'est pas faux. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'élargir vos horaires de déjeuner. Voilà. Pour déjeuner en terrasse, entre, disons, 9h30 et 17h30. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de déjeuner entre 12h et 14h. Open mind, comme c'est disent ça. Nos amis allemands, anglo-saxons.
Oh là là, alors, vous savez déjà ce qui se passe quand on attend une place en terrasse. Les gens vont s'agglutiner en face de la terrasse, serrés les uns contre les autres. On fait comment pour éviter ça?
Oui. C'est vrai qu'on attend, on est regroupé pour attendre. C'est pas faux.
Oui.
Comme quoi, j'ai des conseillers spéciaux qui m'ont pas tout dit. non, alors écoutez, je suis transparent. Totalement transparent, comme mes verres de lunettes. Là, comme je n'ai pas la réponse, écoutez, je vous recontacte ultérieurement. Je pense qu'on va vraiment vers cette quatrième vague, du coup. Ce tunnel que l'on ne connaît pas, nous allons le découvrir.
Bon. Alors, autre chose, quelque chose d'étonnant, les sanitaires.
C'est pas fini, ça continue.
Non, c'est pas fini. Restez avec
vous
nous encore un peu.
Vous m'appréciez comme invité.
Oui. Une longue interview ce matin. Alors, les sanitaires seront fermés dans les restaurants. Mais comment on fait? C'est étonnant, cette histoire.
C'est un vrai sujet, les sanitaires, qui, j'ai l'impression, vous concerne tous autour de cette table.
Comme chacun d'entre nous.
Eh bien, on mange en terrasse, mais de façon pragmatique, on évite de boire. Ou alors, on boit juste avant de rentrer chez soi. où là on peut aller
oui,
se soulager.
On a compris.
Ou alors, je cherche en même temps que je vous parle, excusez-moi, d'essayer de chercher une solution. Ou alors on fait peut-être, là il faudrait que je vois, on fait des toilettes en terrasse.
Oh là là, mon Dieu.
Avec moins de 6 personnes à l'intérieur de ces toilettes.
Ah oui, c'est possible.
Il est rare quand une toilette, en général, ces toilettes sont individuelles.
Oui, c'est
donc,
bon,
peut-être n'y a-t-il pas. Il faut que je voie mes conseillers spéciaux.
Oui, ben cherchez encore. Hein, c'est
je
ce
vais
qu'on vous
parler sanitaire ce matin, mes conseillers
Très bien.
Spéciaux.
Merci, Jean Castex. Bruno Le Maire a trouvé légitime.
Je le note.
C'est bon, c'est fini.
Ou faire pipi dans le restaurant. C'est noté, voilà. Mme Julie, je règle
Très
le
bien.
Problème de la chose.
Très bien. On passe à Bruno Le Maire, maintenant, qui a trouvé légitime la demande des commerces fermés durant la crise sanitaire de pouvoir ouvrir le dimanche. Nous sommes avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Vous êtes d'accord, monsieur Martinez?
Bah non.
Vous pouvez développer un petit peu.
Non, mais écoutez, développer. Non, mais écoutez, il a bon dos le Covid. Franchement, ça c'est tout le patronat. Toutes les excuses sont bonnes pour nous faire bosser le dimanche. On connaît la musique. Hein. Bravo, les papillons. Alors, il y a un pangolin qui tousse, hein, ou un gars qui fait une soupe de chauve-souris sur un marché chinois. Enfin, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Puis, pas un an après, hein, la solution, voilà, c'est d'exploiter les travailleurs, les travailleuses en nous faisant bosser le dimanche. Et ben, non, franchement, on ne nous prendrait pas pour des cons, là. Alors, c'est
mais non.
Voilà,
mais...
C'est non. Le repos dominical, c'est sacré. Hein, c'est le repos dominical, il est non négociable. Voilà.
Mais enfin, ceux qui sont volontaires et ceux qui n'ont pas bossé depuis un an,
non.
Ils peuvent bosser le dimanche.
Non, bah écoutez, Madame Julie, c'est pas de, je connais la musique. Hein, voilà.
Quoi ?
Il y a obligation de se reposer le dimanche. Le dimanche, c'est repos. Hein, et famille d'ailleurs, hein. c'est consacré au repos à la famille. Moi, dimanche, excusez-moi, mais je vais profiter de me retrouver en famille. J'ai amené mes enfants au parc d'attractions, mes petits-enfants également, et voilà, c'est tout.
Justement, dans les parcs d'attractions, dans les théâtres, les cinés, il n'y a pas des gens qui travaillent le dimanche, peut-être, pour que d'autres Français comme vous profitent d'un loisir.
Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez essayer de... Bon, ben voilà, ok. Ben, à cause de Mme Julie, ouais, les enfants, on ira au parc Astérix lundi, voilà.
Oh non, papa, mais non.
Ta gueule.
Bien les enfants, très bien les enfants.
Oui, vous avez vu qu'on est polyvalent.
Oh là là, sont belles ces voix-là.
Bon, dimanche, essayez pas d'impliquer ma famille personnelle dans vos histoires.
Non.
Dimanche, voilà, on se reposera en famille, dans une bonne ambiance. On va. Oui, non, ta gueule, les enfants. On relira Le Capital de Karl Marx. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas. On va réviser. Voilà.
Ah ben, bon dimanche, sous vos applaudissements, Philippe Martinez. Allez, on va revenir sur cette longue interview au magazine Le Point de Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur le Président.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, l'article commence par ces mots. Les vacances de Pâques au Cap-Nègre ont eu un avant-goût d'été. Nicolas Sarkozy s'est levé à l'aube pour pratiquer son anglais, comme chaque matin, pendant une heure et demie.
Et pendant une heure et demie, mon anglais, Bravo. Comme chaque matin. Yes, yes, yes. It is true.
It is true. Ah, dis donc.
Ah, it is complètement true. I learn English every morning. My tailor is rich. Voilà. My billiard is in the cave. Voilà. My tailor is rich. Et the tailor of François Fillon is more rich.
Ah oui, c'est impressionnant, vous maîtrisez bien l'anglais.
Where is Brian?
Oh bah Brian is in the kitchen, non?
No, Brian is mis en examen.
Mais pourquoi?
Oui, parce que mes profs m'ont adapté le programme. C'est un programme personnalisé.
Ah bah d'accord.
Pour sortir de toute situation, pour être un espèce de 4x4 de l'anglais, quoi.
Bah, et pourquoi ce besoin d'apprendre l'anglais à votre âge?
Because on ne sait jamais. If one day, I have some problem with the justice, maybe I can escape in other country.
Ah d'accord.
J'ai vu, et je commence vraiment à être beau là. Vous pouvez presque donner des cours d'anglais à 100 000. Hein. Ça vous intéresse? Envoyez un chèque à Sarkozy Institute. Un chèque, or une cash, il préfère une cash.
Ah, il préfère une cash, on imagine, oui.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse que bien sûr à retrouver sur Europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse. Que Philippe Vandel nous a rejoint 9h, 11h, c'est Culture Média, la matinée continue. Bonjour mon cher Philippe.
Salut Mathieu, notre info média du jour, vous connaissez le point commun entre Christiane Taubira, Boris Cyrulnik et Patti Smith, vous n'allez pas trouver.
Non.
Ils sont tous dans Mastermind, revue de luxe. luxe bisannuel dédié à la culture, à la mode et à la société.
On en parle. Je l'avais pas, effectivement.
Voilà, on en parle avec la responsable de la publication, Marie-Amélie Sauvé, c'est elle qui l'a créé, et Valérie Constantino. Également, alors, vous connaissez Pour Nettoyer, le Canard PC ?
Canard PC, vous avez dit ?
Mais oui, j'ai fait exprès. C'est un magazine référence du jeu vidéo sur PC depuis 2003. Ils lancent un appel sur Ulule pour s'agrandir. Ils ont des émissions sur Twitch et vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup d'humour.
Ah non, mais rien que pour le nom, il faut les aider.
C'est la première chose qui m'a intéressé. Tiens, ils parlent d'Age of Empires 4 qui va sortir bientôt. J'aime bien leur titre. Un bon coup de pied au fief. Voilà. Je savais que ça vous plairait.
On enchaîne. Hein.
Et puis le duo électronique Offenbach avec nous. Phénomène, 1 milliard d'écoutes en streaming, dont 500 millions pour un seul titre, Be Mine. C'est juste complètement fou, ils seront dans ce studio.
Vous m'avez donné envie, Philippe Bandel. Voilà. Je vais rester à l'écoute. Culture Média, 9h-11h, la matinée continue sur Europe 1. Pour ma part, je vous retrouve en direct demain matin à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.